RFI, 9h à Paris, 8h à Kinshasa, 7h en temps universel.
Julien Coquel-Rohem.
Bonjour Léa Boutin-Rivière.
Bonjour Julien, bonjour à toutes et à tous.
C'est une première, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, en visite officielle en France.
Deux jours d'un programme très complet, politique, économie, société civile, autant de thématiques que le chef d'État va aborder, au gré de rencontres avec les autorités, mais aussi avec la diaspora, c'est notre dossier du jour. Peut-être de nouvelles négociations entre Israël et le Hamas, une délégation égyptienne attendue aujourd'hui sur le sol israélien, alors que les frappes se poursuivent, notamment autour de Rafah dans le sud de la bande de Gaza. Dans ce journal également, la flamme olympique remise au comité d'organisation français aujourd'hui. Et puis, on la savait capable de booster une économie. Taylor Swift peut aussi, vous l'entendrez, transformer un simple pub londonien en véritable attraction touristique.
La République démocratique du Congo et la France consolident leurs liens.
Le président Félix Tshisekedi, réélu en décembre dernier, entame aujourd'hui une visite officielle de deux jours avec un programme chargé. Des rencontres avec les autorités politiques à l'Élysée, à l'Assemblée nationale et au Sénat, une cérémonie aux Invalides, un forum économique, mais également une rencontre avec la diaspora congolaise. C'est notre dossier de ce vendredi. Pauline Azidi, bonjour.
Bonjour.
Alors ce déplacement n'est pas anodin puisque c'est la première visite officielle de Félix Tshisekedi en France.
Oui, le président congolais est déjà venu à Paris, mais dans le cadre de visites de travail, de grandes réunions ou de grands événements internationaux. Alors pour ces deux jours, lundi et mardi, il s'agit de rendre l'appareil après la visite du président français Emmanuel Macron à Kinshasa en mars 2023. Une visite préparée depuis plusieurs semaines. Plusieurs ministres, notamment celui des Finances ou des Affaires étrangères, sont venus en amont pour poser les bases de ce voyage.
Parce qu'il y a deux volets importants de cette visite, Paulina, la diplomatie et l'économie. Et
la diplomatie d'abord, ce sera au cœur de plusieurs temps forts de ce voyage. Lundi, le président congolais doit prendre la parole devant les députés et les sénateurs français lors de deux interventions distinctes. Et mardi matin, c'est à l'Élysée qu'il rencontre son homologue français. La situation sécuritaire dans l'est du pays sera au cœur de ces deux séquences et surtout le conflit au Nord Kivu qui oppose les forces armées congolaises et leurs alliés au groupe armé du M23 soutenu par l'armée rwandaise. La France doit clarifier sa position quant à l'agression rwandaise, explique Giscard Koussema, directeur adjoint de la communication de la présidence. On attend plus du côté de la France, ajoute-t-il. Sinon, la RDC prendra ses responsabilités pour aller chercher d'autres partenaires.
Et puis, il y a donc ce volet économique avec un forum organisé par le MEDEF.
L'année dernière, à Kinshasa, le président Macron était accompagné de plusieurs opérateurs économiques. Un premier forum, celui de Kinshasa, avait eu lieu. Des contacts avaient été pris. Il s'agit désormais de transformer l'essai. Des responsables d'entreprises congolaise, mais aussi d'agences de l'État, étaient déjà présents à Paris dès cette semaine pour porter ce message. C'est le moment d'investir en RDC, plusieurs domaines potentiels, l'agriculture avec 4 millions d'hectares de terres arables, l'énergie avec 100 000 mégawatts, mais aussi et surtout un marché énorme de 100 millions d'habitants, le plus grand marché de l'espace francophone. D'autant plus que la France a du retard. Selon les chiffres de l'agence congolaise pour l'investissement l'ANAPI, seules 43 entreprises françaises ont été agréées à son niveau entre 2023 et 2022, en 20 ans. Mais la France a un défaut, confie un patron congolais. Elle pense d'abord à ses grands groupes, alors que la RDC, c'est une opportunité, surtout pour les PME, les PMI. Ce sont les entreprises qui créent le plus d'emplois, de valeur et qui occupent l'espace de manière plus cohérente, nous dit-il.
Pauline Azidi du service Afrique de RFI. Et je le répète donc, ce sera lundi et mardi, cette visite, et non pas à partir d'aujourd'hui. Paris et Kinshasa qui soignent donc leurs relations. En revanche, entre la France et les nouvelles autorités nigériennes, les tensions sont au plus haut depuis le putsch du 26 juillet dernier. C'était il y a 9 mois, tout juste, 9 mois très exactement, que le président démis, Mohamed Bazoum, et son épouse sont détenus à la résidence présidentielle. La junte au pouvoir souhaite juger le président déposé, notamment pour haute trahison et apologie et financement du terrorisme. Pour ce faire, il faut lever son immunité présidentielle, mesure sur laquelle la Cour d'État du Niger se prononcera dans 2 semaines. Une éventualité choquante pour ses avocats, qui dénoncent l'indifférence des dirigeants africains et plus largement internationaux dans une tribune publiée dans le magazine Jeune Afrique. Maître Mohamed Sédou Diagne est co-signataire de ce texte.
Faire lever l'immunité d'un président en exercice, c'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire, surtout sur le fondement d'accusations extravagantes. sans aucune consistance. Séquestrer une personne en dehors de tout cadre légal, en dépit de la décision de la CEDEAO qui a appelé à sa libération immédiate, pour ensuite ouvrir une procédure judiciaire à la Cour suprême, qu'ils appellent leur Cour d'État au Niger, pour des faits d'évasion, d'atteinte à la sûreté de l'État ou de haute trahison, c'est vraiment une procédure judiciaire cousue de fil blanc pour chercher à valider ou à légitimer sa détention, ce qui est tout aussi inadmissible et que nous dénonçons avec la plus grande vigueur. Bazoum est laissé tout seul par ses homologues chefs d'État, par la CEDEAO, par tous ceux qui devaient le soutenir, l'assister par des actions diplomatiques, etc. Voilà pourquoi nous avons estimé devoir rappeler à l'opinion publique nationale et internationale les droits fondamentaux de M. Bazoum et de sa femme et dénoncer cette indifférence dont je faisais allusion tout à l'heure.
C'est Dion Sané. Les effectifs américains au Tchad temporairement réduits, les États-Unis ont décidé de retirer une partie de leurs forces. Annonce faite hier, quelques jours après celle au sujet du départ des militaires américains déployés au Niger. En cause, une demande de l'armée tchadienne qui reproche à Washington de ne pas avoir fourni les documents justifiant la présence de ces soldats sur place. Washington qui a entamé la construction d'une jetée à Gaza, objectif faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire dans l'enclave palestinienne. Ce port artificiel devrait être achevé début mai et permettra initialement de transporter 90 camions d'aide par jour. Car même si les négociations pourraient reprendre aujourd'hui, eh bien pour l'instant, la bande de Gaza est toujours sous les bombes. D'après les autorités de santé du Hamas, 43 Palestiniens ont été tués depuis mercredi. Des frappes particulièrement autour de Rafah, où Israël continue d'afficher les préparatifs d'une opération en dépit des récriminations de la communauté internationale et des organisations humanitaires.
Et aux États-Unis, le mouvement étudiant pro-palestinien gagne du terrain.
À Columbia, à New York particulièrement, où la direction de l'université a reporté le délai pour l'évacuation des lieux. Hier, le mouvement a donné lieu à des face-à-face tendues avec les policiers anti-émeutes. Les manifestations ont désormais aussi lieu à Los Angeles, en Californie, à Austin, au Texas, à Chicago, dans l'Illinois, ou encore à Atlanta, en Géorgie.
L'Europe met le cap sur sa défense.
Thématique abordée hier par le président français Emmanuel Macron avec la nécessité, selon lui, d'une Europe puissante. Le chef d'État a ainsi évoqué l'idée d'un emprunt européen pour financer les investissements en la matière et signe de cette ambition de coopération. Les ministres allemands et français de la Défense vont signer aujourd'hui le contrat qui permettra de faire aboutir le char du futur. Il aura fallu 7 ans pour arriver au bout de ce projet industriel, mais ça y est, l'accord sur le point d'être conclu va distribuer les tâches aux entreprises pour finaliser ce dossier. Franck Alexandre, c'est la fin d'un chemin semé d'embûches et de rivalités.
Et bien sûr, car le MGCS, c'est l'histoire d'un ménage à trois et par conséquent, gage de relations houleuses, Léa. Initialement, il n'y avait que 2 industriels, le français Nexter, fabricant du char Leclerc, et l'allemand KMW, qui de son côté produit le Léopard, jusqu'à l'irruption en 2019 d'un 3e acteur, Rheinmetall, géant allemand du secteur de la défense, avec 2 acteurs germaniques, impossible dès lors de trouver une répartition équitable entre Français et Allemands. Le dossier char s'est alors perdu dans les limbes des rivalités entre industriels et des désaccords politiques. Nouveau rebondissement. Cet été, les ministres Boris Pistorius et Sébastien Lecornu prennent le dossier à bras-le-corps et finissent par s'entendre. Ils signent aujourd'hui donc le protocole gravant dans le marbre la répartition de la charge de travail à 50-50 entre industriels des deux pays. L'objectif maintenant est de produire un char à l'horizon 2040 qui ne sera pas l'itération du Leclerc ou du Léopard, précise Paris et Berlin, mais un blindé révolutionnaire intégrant de nombreuses ruptures technologiques comme des lasers pour se protéger des drones. Et cette fois, la France et l'Allemagne pensent avoir un coup d'avance puisque les Américains eux-mêmes, Léa, n'ont pas commencé l'ébauche du successeur de leur célèbre char Abrams.
Merci Franck Alexandre. Les dossiers défense qui connaissent une accélération dans le contexte de la guerre en Ukraine. Washington a d'ailleurs incité hier l'Allemagne a envoyé des missiles de longue portée à Kiev, une option jusque-là écartée par Berlin.
Et pour faire face à la Russie, l'Ukraine explore de nouvelles pistes afin d'augmenter ses effectifs.
Il y a quelques jours, Kiev a voté une loi forçant le recensement militaire de tous les hommes ukrainiens de 18 à 60 ans vivant à l'étranger. Et à présent, la Pologne propose de prêter main forte au pays en facilitant le rapatriement des ressortissants ukrainiens présents sur le sol polonais. Une proposition mal reçue par la diaspora, Adrien Sarla.
Au centre d'aide pour les réfugiés ukrainiens de Varsovie, la nouvelle a de quoi surprendre. Pour Lena, 58 ans, Renvoyer les hommes en âge de se battre vers l'Ukraine n'a pas de sens.
Ceux qui étaient patriotes, qui pouvaient se battre, sont déjà là-bas. Ceux qui restent, ce sont ceux qui ne se voient pas manier une arme, ceux qui ne s'imaginent pas tuer quelqu'un ou ont simplement peur.
Une peur que Natalia s'efforce elle aussi de comprendre.
Ces hommes devraient défendre le pays, mais cette mesure, c'est juste une façon de retarder l'intervention des pays occidentaux, une fois que tous nos hommes seront morts.
Alexandre a 60 ans, il n'est donc plus en âge d'être mobilisé, mais il l'assure, être à l'étranger ne fait pas de lui un mauvais patriote.
Mes enfants vivent en Pologne depuis plus de 6 ans, et je ne dirais pas qu'ils ne sont pas patriotes. Car ils sont tous sauf des groupes d'aide. Ils recueillent des fonds pour l'armée, ils tissent des filets de camouflage militaire et ce qu'ils font est nécessaire. Je pense même qu'ils sont utiles plus ici qu'en Ukraine.
Aujourd'hui, 93% des hommes ukrainiens travaillant légalement en Pologne ont entre 20 et 59 ans. Si la Pologne met sa menace à exécution, ils risquent d'être reconduits de l'autre côté de la frontière. Adrien Sala, Varsovie, RFI.
La flamme olympique poursuit son périple.
Et elle va être remise aujourd'hui aux organisateurs français des Jeux lors d'une cérémonie à Athènes. Puis demain, elle embarquera à bord du Belém, prestigieux trois mâts, pour rejoindre Marseille. Tout cela signifie que les JO approchent. Les sportifs en ont bien conscience, hein, aussi bien côté JO que côté Jeux paralympiques. Notre correspondant à Athènes, Joël Bronner, a rencontré Nassos Gavelas. C'est un athlète non-voyant, il est recordman du 100 mètres.
Sur le dos, Nassos Gavelas soulève un haltère de 200 kg. L'heure est au travail musculaire dans les locaux du Centre athlétique olympique d'Athènes. Le sprinteur non-voyant suit les consignes de celui qui est son entraîneur depuis maintenant près de 8 ans, Nestoras Kolovos.
C'est la même préparation qu'avec un athlète valide. La seule différence, c'est que Nassos a besoin d'un coureur à ses côtés. Il ne peut pas courir seul. Sous ma direction, Nassos a remporté une fois les mondiaux et deux fois les championnats d'Europe d'athlétisme en e-sport sur 100 mètres. Il a aussi terminé premier aux Jeux paralympiques de Tokyo en établissant un nouveau record du monde.
10 secondes 82, voilà le record établi sur 100 mètres par l'athlète de 24 ans dans la catégorie T11, celle des sportifs avec une cécité totale. Les coureurs y sprintent avec un bandeau sur les yeux et donc un coureur guide rattaché par le poignet qui les aide à maintenir une course en ligne droite. C'est Théodoris Vrontinos qui est depuis un mois seulement son nouveau guide. Ensemble, ils espèrent bien goûter rapidement à la victoire. Nassos Gavelas.
Là, on s'entraîne d'abord pour les championnats du monde de para-athlétisme de Kobe au Japon en mai. Pour les Jeux paralympiques, on est calme, concentré et on vise le meilleur résultat possible.
Objectif, la première place bien sûr. Joël Bronner, Athènes RFI.
Et puis près de 40 000 pubs au Royaume-Uni, mais un seul les détrône tous.
Et il s'agit du Black Dog dans le sud-ouest de Londres. Alors a priori, rien d'exceptionnel dans ce bar. Une devanture simple, une petite terrasse, des plats typiques de la gastronomie anglaise. Oui mais voilà, c'est ce pub et pas un autre que la chanteuse Taylor Swift mentionne dans son dernier album. Et cela n'a pas échappé aux fans les plus assidus de l'artiste. Emeline Vin, le bar est tout simplement pris d'assaut. How you don't miss
me in the black dog. Depuis la sortie de The Black Dog, Simran voulait à tout prix mettre l'image d'un lieu sur les paroles. Basically,
she's talking about en gros, elle parle de son ex. Elle le voit se rendre dans ce pub avec une autre et elle lui dit « J'espère que tu vas passer un très mauvais moment dans ce bar. J'ai été obsédée par le fait de trouver cet endroit et c'est à côté des lieux où je traîne d'habitude. »
Au moins 14 pubs britanniques s'appellent Black Dog, mais pour les Swifties, c'est sûr, il s'agit de celui-ci. Ici, John, américain qui vient régulièrement à Londres, n'en revient pas.
Le manager de l'hôtel nous a prévu à l'avance que cette année, vous aurez du mal à réserver dans mon pub Black Dog parce que tout d'un coup, il y a du monde. À chaque fois que Taylor Swift touche à quelque chose, cette chose devient dorée. Elle est magique.
Sur le menu, les serveurs proposent un burger Swift et offrent des bières aux admirateurs. Lily Bottomley, responsable des événements.
Une heure après la sortie de l'album, les gens ont commencé à arriver pour venir prendre des photos. Nos réservations sont pleines. Nos ventes ont augmenté. Notre page Instagram a 5 fois plus d'abonnés. On lance des produits dérivés bientôt. Ce n'est que de l'amour.
Certains habitués s'agacent de voir leur taverne prise d'assaut. Les fans, eux, espèrent que leur icône passera par le Black Dog lors des dates londoniennes de sa tournée en juin. Emeline Vin, Londres, RFI.
Taylor Swift pour terminer une édition. Ça n'est pas pour me déplaire. Je vous laisse avec Julien Coquel-Rohem pour la suite de RFI Matin.
Merci Léa Boutin-Rivière. Très bonne journée à vous. 7h15 en temps universel, RFI Matin, troisième et dernière heure. Nous sommes ensemble jusqu'à 8h TU et dans un quart d'heure, un nouveau point sur l'info africaine avec Edouard Dupénoat. D'ici là, dans un instant, on évoque la situation entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, 7 mois après la reconquête éclair du Haut-Karabakh par l'Azerbaïdjan. Peut-on croire à la paix? On en parle, on fait le point avec Régis Janté. Vous entendrez aussi les prisonniers de guerre arméniens libérés. Ils racontent les violences qu'ils ont subies en détention. Mais tout de suite, la presse. Avec vous Catherine Potet, le tour de la presse internationale à la une, les manifestations pro-palestiniennes sur les campus américains.
Et pour illustrer ces manifestations, une photo et une vidéo publiées notamment par le Washington Post. On voit un manifestant plaqué au sol, son ménagement, par 3 policiers alors qu'un 4e armé fait obstacle pour empêcher, sans y parvenir, les journalistes de filmer la scène. Les arrestations lors des manifestations pro-palestiniennes qui se sont étendues hier aux universités à travers le pays porte le nombre total de personnes arrêtées en une semaine à plus de 500, explique le quotidien américain. Hier encore, poursuit le Washington Post, les étudiants montraient peu d'envie de plier leurs tentes et leurs pancartes alors que l'année universitaire touche à sa fin. Interrogé, Willow Torres, une jeune étudiante de 20 ans qui participait aux manifestations tous les soirs depuis dimanche, fait partie des personnes arrêtées. Elle a déclaré avoir vu la police encercler une foule de manifestants dans une ruelle et avoir rapidement senti un policier saisir le dos de son sweatshirt, la pousser au sol et lui attacher les mains derrière le dos. « J'ai été secouée », a-t-elle déclaré. « C'était incroyablement violent ». Elle a été libérée de prison à 7h du matin. Elle prévoit désormais d'éviter les manifestations nocturnes, nous dit le Washington Post.
La guerre au Proche-Orient, encore avec un article du journal Haaretz.
Personne ne dit aux Israéliens à quoi ressemblerait réellement une guerre avec le Hezbollah, titre le quotidien israélien qui poursuit. Attaque dévastatrice contre les infrastructures civiles, retombées régionales, manque de soutien à la guerre, telle est la sombre réalité si un deuxième front s'ouvre avec le Hezbollah. Israël et le Hezbollah sont au bord d'une guerre à grande échelle, estime Haaretz. Le lendemain de l'attaque du Hamas dans le sud d'Israël, la milice chiite, que certains considère comme un mandataire, voire un partenaire de l'Iran, a commencé à tirer sur les positions israéliennes depuis le sud du Liban. Quelques 80 000 Israéliens et environ 75 000 Libanais ont été évacués des zones frontalières et les troupes des deux côtés ont pris position. Haaretz fait part de son inquiétude. Le Hezbollah dispose d'armes bien plus dévastatrices que le Hamas n'en a jamais eu. Mais l'État hébreu semble se préparer. Le quotidien israélien précise ainsi qu'un document a circulé sur les réseaux sociaux arborant le logo du ministère de la Justice et énumérant les consignes d'urgence en cas de guerre totale dans le nord et d'attaque contre des centrales électriques. Ce mémo mettait en garde contre les pannes de courant et conseillait de faire des réserves d'eau, de batteries de téléphone portable, d'avoir une radio parmi la liste d'articles d'une longueur alarmante.
Dans la presse internationale également, l'expulsion des demandeurs d'asile du Royaume-Uni vers le Rwanda.
Expulsion désormais rendue possible car elle a été approuvée par les parlementaires qui ont entériné le projet que le Premier ministre Rishi Sunak défendait depuis des mois. The Independent s'en fait l'écho, mettant en avant les critiques d'Emmanuel Macron. Le président français, nous dit le quotidien britannique, qualifie cette politique de cynique et parle aussi d'une trahison des valeurs européennes. Il a aussi prévenu que ce projet serait inefficace. Downing Street a répliqué affirmant que son approche était la bonne et que d'autres pays du monde exploraient des options similaires. Quant au ministre de l'Intérieur, James Cleverly, il s'est prononcé contre les critiques paresseuses et de mauvais goût, tout en assurant qu'il ne parlait pas des commentaires d'Emmanuel Macron. Pour mémoire, rappelle The Independent, Rishi Sunak a promis que les vols commenceraient à décoller d'ici 10 à 12 semaines, mais le gouvernement se prépare à une série de contestations judiciaires contre cette politique, en particulier, nous dit-on, de la part d'individus qui prétendront qu'ils sont trop vulnérables pour être expulsés, ajoute le quotidien britannique.
Catherine Potet pour la revue de presse, merci beaucoup. RFI, 11h20, à Bakou et Yerevan, la paix est-elle possible entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie? 7 mois après la reprise totale de contrôle du Haut-Karabakh, la tension demeure sur le terrain, parfois meurtrière, mais les deux pays envoient aussi des signaux d'une volonté de signer la paix. La semaine passée, un accord a été trouvé pour délimiter une partie de la frontière commune. Bonjour Régis Janté.
Bonjour à vous.
En direct avec nous, vous êtes notre correspondant dans la région. Cet accord sur les frontières est-il un bon signe ?
Oui, possiblement il l'est en effet, même si pour le moment c'est le vainqueur qui semble imposer ses conditions. On ne le voit pas, lui, avoir fait des concessions. Les forces armées azerbaïdjanaises, d'ailleurs, occupent toujours plus de 200 km² du territoire arménien depuis 2022 et elles ne montrent aucune volonté d'en partir. Et puis il y a eu tout de même encore des clashs réguliers à la frontière, dont un qui a fait 4 morts arméniens mi-février dernier. C'est le reste du contexte qui fait dire à certaines personnes impliquées dans les discussions de paix que l'espoir de signer un traité existe.
Qu'est-ce qui fait dire à ces dernières que la paix est possible ?
Alors, je crois que d'abord, il faut souligner que ces tensions sont réelles, mais il n'y a guère de processus de paix qui ne passe par là. On ne met pas fin en quelques mois à plus d'un siècle de conflits, de haine. Souvenons-nous évidemment du génocide des Arméniens, qui fait partie intégrante de cette histoire. Ce qui fait dire à des gens très impliqués dans le dossier que la paix reste en vue, ou du moins reste une possibilité à laquelle il faut travailler, c'est que les deux gouvernements se parlent. Ces jours-ci, par exemple, selon mes informations, Hikmet Hajiyev, qui est le conseiller du président azerbaïdjanais, vraiment l'homme le plus important autour de lui, et Armen Grigoryan, qui est le chef du Conseil de sécurité arménien, doivent à nouveau se rencontrer. Ils multiplient les réunions secrètes, discrètes, disons, dans divers pays. Et selon des diplomates qui assistent à ces entretiens, il y a un vrai travail entre les deux hommes, des avancées sur certains points, des reculs sur d'autres parfois.
Et Régis, quels sont les obstacles qui demeurent ?
Ils sont nombreux, il y en a de plusieurs sortes. Il y a d'abord des obstacles intrinsèques à la relation entre les deux pays, la délimitation des frontières, le retrait des forces azéries dont je parlais, de ces 200 km² occupés en Arménie. La deuxième série d'obstacles qui tient au contexte géopolitique très compliqué, a fortiori avec la guerre en Ukraine. De grands acteurs défendent leurs intérêts au Caucase, Russie, Turquie, Iran, les Occidentaux. Ils s'opposent sur ce terrain les uns aux autres, comme l'an passé lorsque Bruxelles et Moscou tentaient chacune de parrainer cet accord de paix. Et on le voit aussi aujourd'hui, alors que l'Arménie tente de diversifier ses partenariats géopolitiques, la Russie l'ayant abandonné, considère-t-elle du moins, dans son conflit avec l'Azerbaïdjan.
Régis Janté, merci beaucoup. Et en Arménie, 7 mois après la reprise du Haut-Karabakh, l'une des questions toujours en suspens est celle des prisonniers de guerre capturés en septembre, parmi eux 8 anciens dirigeants de la République autoproclamée du Haut-Karabakh, accusés par l'Azerbaïdjan de terrorisme, de séparatisme ou encore de crimes de guerre. Leurs conditions de détention et leur état de santé restent inconnus, alors que les prisonniers qui ont été libérés témoignent, eux, d'humiliation et de violence en prison. Reportage Manon Chaplin.
Achot, nous lui donnerons ce prénom. De son passage dans les prisons de Bakou, il se souvient de tout. Les nuits sans matelas, l'heure des repas, 6h, midi, 14h, puis plus rien jusqu'au lendemain matin. Ce gardien un peu plus sympathique que les autres, qui en cachette lui donnait des cigarettes. Et puis, ses coups.
Nous avons dû rester debout 24 heures d'affilée. Si nous bougions, ne serait-ce qu'une seconde, il se dirigeait à 6 ou 7 sur nous, puis nous frappait. À ce moment-là, je ne savais pas si nous allions vivre ou mourir, car, je dois le dire, ils agissaient comme des animaux.
Quand il raconte, Achot rigole nerveusement. 3 semaines plus tard, il sera libéré. J'ai de la chance, dit-il, je crois avoir survécu.
En partant, ils nous ont dit que si nous disions quoi que ce soit sur leur prison, il y avait toujours des soldats arméniens ici et qu'il y aurait des conséquences pour eux. Depuis, j'ai des problèmes de sommeil. Je ne dors jamais la nuit. Donc je dors toute la journée. Mes émotions sont très difficiles à décrire. Je ne souhaite à personne de vivre cela. Ce sentiment de désespoir, de vide. Je ne me suis jamais vraiment remis.
I'm still recovering.
Comme Ashot, 208 Arméniens ont été relâchés depuis la guerre de 2020. Siranouche Saakian, leur avocate, sort un dossier de son sac.
Sur la base de leurs témoignages très détaillés et des résultats d'examens médicaux, nous pouvons affirmer que la torture et l'humiliation étaient systématiques en prison.
Officiellement, 23 Arméniens sont toujours détenus en Azerbaïdjan, pour la plupart accusés d'activités criminelles. La date de leur procès n'est toujours pas connue.
Ils bloquent le retour de ces prisonniers afin de les utiliser comme monnaie d'échange lors des négociations pour un accord de paix. Cela permet notamment à l'Azerbaïdjan de négocier plus facilement le rattachement de certains villages de montagne qui se trouvent aujourd'hui sur le territoire arménien.
De son côté, l'Arménie dit avoir libéré ses derniers prisonniers lors d'un échange mi-décembre. Sevan, c'est un prénom d'emprunt, faisait partie du convoi.
Mon codétenu est resté là-bas. Dans cette cellule, nous étions 8. 7 d'entre nous ont pu rentrer. C'est très douloureux parce que oui, toi, tu es bien au chaud à la maison, mais ton ami est resté là-bas.
Je ne serai jamais totalement de retour, résume-t-il, tant que lui et les autres prisonniers ne seront pas rentrés. Manon Chaplin, Yerevan, RFI.
Reportage à retrouver sur RFI.fr et notre appli Pure Radio. Et dans les dessous de l'Infox, ce matin, retour sur une technique de désinformation de plus en plus utilisée par la propagande russe. Bonjour Grégory Genevrier.
Bonjour Julien.
Il se multiplie sur les réseaux sociaux, notamment Telegram. On parle des faux reportages, des vidéos maquillées en contenu journalistique. Des médias du monde entier sont touchés. La BBC, Euronews, Die Welt, TF1, chaque jour de nouveau s'ajoute à la liste. Et parmi les cibles récurrentes, Grégory, on retrouve aussi RFI. Et France 24.
Oui, le logo en haut à droite de l'image, le style d'écriture, le format, les crédits, tout porte à croire que ces vidéos ont bien été produites par les rédactions ciblées. Mais en réalité, eh bien, ces contenus usurpent l'identité de médias réputés, qu'ils soient allemands, français, polonais ou même indiens et israéliens. À chaque fois, le même procédé de fabrication est utilisé, une vidéo d'une durée moyenne d'une minute, un texte imitant la charte graphique du média ciblé, apposé sur des images d'illustration, le tout sans faute d'orthographe accompagné d'une musique neutre.
Des contenus trompeurs, similaires sur la forme mais aussi sur le fond.
Oui, puisque sur la trentaine de faux reportages que nous avons identifiés, deux narratifs reviennent constamment. L'un dénonce la présence de réfugiés ukrainiens dans les pays occidentaux, les faisant passer pour des criminels, des drogués ou des vecteurs de contamination. L'autre s'attaque aux Jeux Olympiques de Paris et avance à coups d'infox que l'événement va être une catastrophe pour la France. De narratifs, on le sait, poussés par la propagande russe depuis plusieurs mois. L'autre élément commun à ces faux reportages, c'est l'utilisation systématique de citations créées de toutes pièces et attribuées à tort à des politiques, des chefs d'entreprise ou même des médecins.
Qui est derrière cette vaste campagne de désinformation?
Eh bien, si ces infox ne sont pas directement signées, l'analyse de leur circulation laisse peu de doutes sur l'implication directe de la propagande russe. En retraçant l'apparition de ces faux reportages, nous avons pu identifier une petite dizaine de chaînes Telegram russophones à l'origine de 90% de ses productions. L'infox est ensuite reprise par des sites internet russes avant parfois d'être relayée sur les réseaux sociaux de premier plan comme X et Facebook. Certains cumulent ainsi plusieurs centaines de milliers de vues. Un schéma de diffusion typique des campagnes de désinformation russes.
Et à quoi servent ces faux reportages, Grégory?
Non seulement à tromper les internautes, à fracturer les sociétés occidentales, mais aussi à attaquer la crédibilité des médias réputés en jetant le doute sur l'authenticité de chacun de leurs contenus. Après les fausses couvertures de journaux, les faux articles de presse, la propagande russe mise désormais sur ce nouvel outil de désinformation peu coûteux à produire et qui peut faire beaucoup de dégâts.
Dernière question, la plus importante peut-être, comment s'en prémunir?
Eh bien, le meilleur réflexe à adopter en cas de doute, c'est de remonter à la source. Si la vidéo est authentique, elle a forcément été publiée par le média en question sur son site internet ou sur ses réseaux sociaux officiels. Alors si vous ne la retrouvez pas, attention, c'est possiblement un faux reportage. Dans le cas de RFI, si vous avez un doute sur un contenu estampillé avec notre logo, vous pouvez contacter notre cellule InfoVérif au plus 33 6 08 94 93 05.
C'est bien noté, Grégory Genevrier. Merci beaucoup, les dessous de l'Infox. Chaque vendredi, et l'info qui continue sur la radio du monde. Le journal dans tout juste une minute. À tout de suite.
En sol majeur, Yasmine Chouaki.
Avec Justine Massika Biamba, formidable militante congolaise qui publie « Femmes debout face à la guerre », cofondatrice de l'ONG « La synergie des femmes pour les victimes des violences sexuelles », son combat est celui des femmes violées en République démocratique du Congo.
En sol majeur, Yasmine Chouaki.
Samedi, à partir de 14h10 temps universel et en podcast sur RFI.fr.
Témoin d'actu, le podcast d'info de RFI. Alexandra Cagnard.
En Haïti, les bandes armées continuent de semer la terreur dans les rues de Port-au-Prince. Mais que se passe-t-il en dehors de la capitale? De retour de reportage, Vincent Souriau raconte la vie à Cap-Haïtien, où les autorités et les habitants mettent tout en œuvre pour éviter que les gangs armés prennent le pouvoir.
Témoin d'actu avec Alexandra Cagnard, tous les samedis à 19h41 sur RFI et en podcast sur RFI.fr.